un évangile qu'on connaît bien, et dans un chapitre qu'on connaît bien, je pense, dans Jean chapitre 3, si vous voulez. Alors moi, ce n'est pas juste pour un partage, je suis désolé, c'est pour la prédication. Donc dans Jean chapitre 3, alors, vous avez le bonjour de Christina et des enfants, mais à cause d'un problème de voiture, on ne peut pas être là tous. Donc on est en petit comité. Bon, vous pouvez prier pour qu'elle soit réparée rapidement et qu'il n'y ait plus de problème de ce côté-là. Voilà. Mais sinon, ça va. Alors, donc dans l'évangile de Jean au chapitre 3, je pense que vous connaissez l'évangile de Jean, je crois que vous connaissez le chapitre 3. Donc, jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. Ce n'est pas l'Apocalypse de Jean, ce n'est pas la première épître de Jean ou la seconde, ou la troisième, c'est la première. L'Évangile de Jean. Alors, on va lire des versets 1. Allez, versets 1 à 9. Donc, il nous a dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Voilà. Alors, on va dire jusque-là. Et donc, j'aimerais vous poser une question ce matin, en particulier par rapport à la nouvelle naissance, et un peu m'arrêter sur cette question. Est-ce que le baptême est nécessaire à la nouvelle naissance? Est-ce que le baptême est nécessaire à la nouvelle naissance? Et pourquoi prêcher là-dessus? Personnellement, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un se pose la question dans la salle, je n'en sais rien. J'avais d'autres messages que j'aurais pu prêcher. Est-ce que le baptême est nécessaire finalement pour être sauvé, pour entrer dans le royaume de Dieu? La semaine dernière, on a eu des baptêmes. C'était formidable. Quelque temps de cela, c'était même dans notre famille. Donc c'est toujours un sujet de joie. Et je crois que le baptême, tel qu'on l'a vu la semaine dernière, eh bien, c'est une obéissance que l'on fait à Dieu. C'est même un des premiers pas dans la vie chrétienne, un des premiers pas d'obéissance. Il y en a d'autres, puisque en dépit de nos désobéissances, normalement, on doit progresser sur le chemin étroit. Vous savez, Christ a dit « il y a un chemin large qui mène à la perdition ». Et il y a un chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Alors c'est vrai que l'on peut chuter, mais il y a, paraît-il, saint Augustin, alors je ne vais pas vérifier, saint Augustin aurait dit, il vaut mieux marcher en boitant sur le bon chemin que marcher d'un pas ferme sur le mauvais chemin. Alors peut-être que l'on marche en boitant, que l'on fait des chutes, que l'on a des problèmes, mais quand même, si on est sur le bon chemin, c'est déjà mieux que d'avancer gaillardement et joyeusement sur le mauvais chemin. Mais donc, j'ai choisi ce passage ici parce qu'on a Nicodème qui vient poser une question à Jésus-Christ. Et Christ ne lui répond peut-être pas de la manière dont on voudrait. Il donne une question qui est peut-être, j'allais dire, alambiquée, qui n'est peut-être pas aussi claire que... Quelquefois, on aimerait que Christ soit clair vraiment dans toutes les choses assez simples. Peut-être même qu'il nous donne une série de 10 points ou de 15 points sur comment la vie chrétienne, ou 50 points pour vivre la vie chrétienne, et que les choses ne soient pas toujours aussi peut-être compliquées. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'elles sont compliquées? Mais bon, il se trouve, dans la Bible, c'est clair, la Bible elle-même le dit, hein, Pierre lui-même le dit, il dit... Il y a des choses, on peut prendre dans deux Pierre, si je ne me trompe pas. Voilà, 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre, oui, 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 14. Il nous est dit, c'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, bon là il parle d'autre chose, mais bon, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures. Donc, si on pense que tout est absolument simple à comprendre dans la Bible, on se trompe, parce que Pierre lui-même a dit, ben dans les épîtres de Paul, il y a des choses difficiles à comprendre. Donc, il y a des choses simples à comprendre dans la Bible, et il y en a ben, des plus compliquées. Donc, ça n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit mot pour mot. Il y a des choses difficiles à comprendre. Et dont il est dit, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures. Pourquoi est-ce que Dieu a mis dans la Bible des choses difficiles à comprendre? Personnellement, et ça n'est que mon opinion, c'est mon opinion. C'est pour justement faire la différence entre l'ivraie et le bon grain. De cette manière, eh bien, se manifestent les voies des êtres humains. Vous savez, Dieu aurait pu faire que toutes les choses soient simples et faciles, mais il a laissé l'être humain manifester ses voies, manifester ses pensées, manifester ses projets et manifester ses péchés. Mais c'est aussi là que le jugement de Dieu va intervenir. Et Dieu fait en sorte que les choses se manifestent et qu'elles manifestent leurs fruits. Merci. Ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain, mais au bout d'un moment, quelquefois ça prend du temps, mais au bout d'un moment, eh bien, les choses croissent et elles manifestent leurs fruits et leurs bons fruits ou leurs mauvais fruits. Et dans ce passage de Jean que nous avons lu sur la nouvelle naissance, eh bien, il y a eu, et je suis désolé, on va parler de l'interprétation de la Bible, mais il y a eu visiblement des personnes qui ont tordu le sens. Si vous voulez relire avec moi au chapitre 3 de Jean. Donc Nicodème vient voir Jésus, il lui dit, « Oh, Rabbi, c'est formidable. Toi, tu viens de Dieu parce qu'on voit les miracles que tu accomplis. Et personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Alors Jésus aurait pu lui dire, « Bravo Nicodème, bravo, tu as trouvé, tu as la bonne solution. Effectivement, je viens de Dieu parce que je fais ces miracles. » Et donc, tu dois reconnaître, moi je suis le Messie, effectivement, Bravo, bienvenue. Et Jésus, pas du tout. Il embraye sur quelque chose de tout à fait différent et il lui dit, Jésus lui répondit au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors là, Nicodème, il a dû être stupéfait. Il s'est dit, mais moi, je viens le voir, je lui dis qu'il fait des miracles, que c'est bien. Et il me dit, mais si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire? Donc Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors déjà, là, il parle du royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Dans d'autres passages de l'Écriture, il est dit que le royaume de Dieu, c'est la justice et la paix par le Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu, c'est vivement une réalité très, très intérieure. C'est la communion avec Dieu, je dirais. Mais dans d'autres passages, il est dit aussi que le royaume de Dieu, au sein du royaume de Dieu, il allait y avoir des contrefaçons. Qu'à côté du bon grain qui allait naître de la parole de Dieu, il y aurait du mauvais grain qui allait pousser. Et ça, on ne doit pas s'étonner, hein. Quand Pascal parlait, bah oui, toutes ces dénominations, toutes ces choses étranges, tous ces scandales parfois, ces personnes qui font des choses qui ne sont pas cohérentes, qui trompent au nom de Dieu, qui trompent au nom de Christ, qui a, je sais pas. Malheureusement, on ne doit pas s'en étonner parce que la Bible, hein, elle avait annoncé, la Bible avait prédit. Par contre, on doit veiller que ça ne nous arrive pas à nous. Et on doit bien prendre garde, parce qu'à force de regarder les autres, ça peut nous arriver à nous. Et parfois, en essayant de résoudre des problèmes, eh bien, certaines personnes en ont créé des plus grands, des beaucoup plus grands. Donc, on doit prendre garde à vraiment sonder nos cœurs dans ce domaine, et pas devenir comme ces personnes dont Christ a dit, ils voient... Enfin, qui voit la poutre dans l'œil, pardon, qui voit la paille dans l'œil de leur prochain et qui voit pas la poutre dans leur œil, dans leurs yeux. Par exemple, si on prend les témoins de Jéhovah ou d'autres groupes hein, qui ont précédé, mais ça venait souvent de gens très bien intentionnés qui voulaient résoudre tous les problèmes et qui n'ont pas réussi. Mais ici, donc, on a un passage, hein, et on a Nicodème qui est surpris par la réponse de Christ. Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Alors nous, avec tout notre jargon évangélique, tout notre bagage doctrinal aujourd'hui, naître de nouveau, bah oui, c'est ça n'a peut-être pas le même sens que pour Nicodème quand il l'a entendu. En tout cas, la réaction de Nicodème à ça, naître de nouveau, naître une deuxième fois, sa réaction, ça a été quoi? Ça a été naître une deuxième fois. Est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère pour naître à nouveau, hein? C'est ce qu'il dit. Hein? Vous pouvez lire avec moi au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que Nicodème, qui venait voir Jésus, il avait certainement un certain âge. Moi, je l'imagine un peu comme un vieillard à barbe blanche, un rabbin à barbe blanche. Moi, je l'imagine plutôt dans les 60-70 ans. Bon, peut-être pas, hein, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Mais visiblement, c'était quand même quelqu'un d'assez vieux. Et il vient voir Jésus et lui dit, « Tu fais des miracles formidables, tu es un docteur venu de Dieu. » Et Christ lui dit, « Ah oui, il faut que tu naisses de nouveau. » Alors lui, il tombe du quatrième étage et il dit, quoi? Mais est-ce qu'un homme peut naître quand il est vieux? Tu me dis à moi, qui suis un rabbi, je dois naître de nouveau? Je suis quand même un rabbi en Israël. quelqu'un qui a une certaine stature, un enseignant, qu'est-ce que tu me dis que je dois naître de nouveau? Mais c'est pas possible! Est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère et naître? Jusque-là, il était bien, ce Jésus, il fait des miracles et tout. Et là, qu'est-ce qu'il me raconte? Naître de nouveau! Je vais devoir renaître, retourner dans le sein de ma mère et renaître, mais c'est pas possible! Ça, c'est la réaction de Nicodème. On peut le relire. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ici, il nous est dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, naître d'eau et d'esprit, peut-être ça peut vouloir dire, je ne sais pas, il faut boire un peu d'eau, et puis après, naître de l'esprit de Dieu. Non, peut-être pas. Ou alors, peut-être que ça veut dire, il faut être plongé dans l'eau, et après, il faut recevoir l'esprit de Dieu. Hein, peut-être. Ou peut-être il faut recevoir quelques gouttes d'eau, voilà. Et après, on a besoin d'avoir l'esprit de Dieu. Et finalement, c'est la manière, quand Pascal parlait de complications que les gens ont fait, souvent, c'est la manière dont ce verset a été interprété par certaines personnes. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut recevoir quelques gouttes d'eau, soit sur le front, ou alors être plongé dans l'eau, être baptisé, et après, on va recevoir l'Esprit de Dieu. Et finalement, c'est mettre involontairement, les personnes qui ont interprété la Bible comme ça, ont mis une condition au salut. Et cette condition, eh bien, c'était d'être baptisé. Au lieu d'être sauvé, et après être baptisé, comme nous le croyons, je pense, ces personnes ont dit, il faut être baptisé, et sans ça, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas être sauvé. Et de fil en aiguille, ces personnes ont dit, il faut baptiser les petits-enfants, les nourrissons. C'est la première étape, c'est comme ça qu'ils vont être sauvés par la suite. Et souvent, ces personnes sont venues à dire, il faut être baptisé, mais il faut être baptisé parmi nous. Il faut être baptisé dans notre église, il faut être baptisé dans notre assemblée, il faut être baptisé dans notre groupe, parce que le baptême ailleurs n'est pas valable. Et de fil en aiguille, on en vient à dire bien que le salut que Dieu a donné dépend d'un groupe de personnes ou d'une dénomination. Et c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure dans l'histoire de l'Église. On est venu à mettre une condition au salut, une condition autre que la foi en Jésus-Christ. Et pourtant, la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut sauver, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire ici ? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien, Christ voulait simplement dire, il faut naître une première fois, physiquement, et il faut naître une deuxième fois, spirituellement. Et cette première naissance, quelque part, pour toute personne qui observait une naissance à cette époque, il n'avait pas besoin de faire des échographies ou autre. La naissance, c'était une naissance par l'eau. Il voyait bien qu'il y avait un liquide, que nous aujourd'hui on appelle le liquide amniotique. Il y a la perte des os hein, chez une femme qui accouche. C'était vrai à l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui. Vous allez me dire, c'est peut-être pas ça que ça veut dire quand même. Mais au verset suivant, quand même, Christ dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit « Il faut que vous naissiez de nouveau » ou « Que vous naissiez à nouveau. » On peut prendre dans le psaume 139, si vous voulez. Psaume 139. Au verset 13. On peut même prendre au verset 7, où le psalmiste dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Je prends les ailes de l'aurore, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. » La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était inscrit étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Et ici, il parle clairement de ce qui se passe avant de la naissance et de l'existence de l'être humain avant de naître, quand il est tissé dans le sein de sa mère, quand son corps, finalement, même s'il est invisible aux yeux des hommes, il n'est point caché devant Dieu, quand il est fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alors, il y a un peu de poésie là-dedans, je crois, mais ça montre bien que pour Dieu, la vie commence dès le temps où on est tissé dans le sein maternel. Pour Dieu, la vie ne commence pas après, elle commence à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce que c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est remis de plus en plus en question dans nos sociétés. On veut oublier que la vie commence dans le sein maternel. Il y a même des personnes, pourtant des personnes qui devraient être intelligentes, puisqu'ils enseignent dans des institutions reconnues, je crois même que c'était à Oxford, qui viennent à dire, ah oui, mais finalement, une personne n'existe que au fur et à mesure, si je comprends bien, au fur et à mesure où elle devient responsable, elle est capable de prendre des décisions ou autre, et avant, elle n'est pas une personne à part entière. Et ces personnes se font l'avocat, puisqu'ils disent, puisqu'on a permis, surtout dans le monde anglo-saxon, puisqu'on permet l'avortement jusqu'à 24 semaines, 28 semaines, jusqu'avant la naissance, ben soyons logiques, permettons-le aussi après la naissance. Donc ça, c'est bien sûr, ce sont des pionniers, hein, des pionniers de la révolution que l'on est en train de vivre. Mais voilà, il y a des gens qui ont une position d'enseignant qui disent, bah oui, soyons logiques. Et finalement, il y a une logique barbare, une logique meurtrière. Mais ils en viennent là. Mais pour Dieu, ça n'est pas la même chose. Pour Dieu, la vie est précieuse, et la vie est précieuse dès le sein maternel. Et je crois vraiment que c'est là ce que Christ disait à Nicodème, il faut une première naissance dans laquelle On arrive dans le monde et puis il faut une seconde naissance qui est faite par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Il faut que l'on naisse de nouveau, que l'on naisse une deuxième fois. Et si vous prenez dans l'évangile de Jean au début, au chapitre 1 de l'évangile de Jean, au verset 11, on peut même prendre à partir du verset 9, il nous est parlé du logos de Dieu, de la pensée de Dieu, qui est la lumière du monde. Il est dit, cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et je crois, là il parle de la même chose dans Jean chapitre 1, être né non pas de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et dans Jean chapitre 3, il dit, ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a ces deux naissances, la naissance naturelle et la seconde naissance surnaturelle. Mais comment se produit cette seconde naissance surnaturelle? Eh bien, elle se produit, si on regarde Jean chapitre 3, en regardant à Christ. Continuez à lire Jean chapitre 3. Puisque Christ lui dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que moi aussi je sois élevé, afin que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en fait, avant d'être baptisé d'eau, eh bien, nous avons besoin d'être baptisé en Jésus-Christ. Et ce qui nous sauve, eh bien, ça n'est pas le baptême d'eau, mais c'est le baptême en Jésus-Christ. Être baptisé dans sa mort et dans sa résurrection. Vous allez me dire, mais comment est-ce que ça se fait? Alors, regardons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Il nous a dit, Romains chapitre 6, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Ici, il est dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et je ne crois pas que c'est le baptême d'eau qui est mentionné ici, mais que c'est le baptême du Saint-Esprit et que c'est ce baptême-là qui nous plonge dans la mort de Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous plonge dans la mort de Christ, il nous fait découvrir Jésus-Christ. Crucifié. Dans l'évangile de Jean encore, Christ a dit son Père allait envoyer le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit convaincrait de péché, de justice et de jugement. Et comment est-ce que le Saint-Esprit nous convainc de ces choses, de notre péché, de sa justice et du jugement à venir? Eh bien, c'est en nous faisant découvrir Jésus-Christ, en nous plongeant dans la mort de Christ. Regardez dans un autre passage, en 1 Pierre, La première épître de Pierre, au chapitre 3, au verset 18. Il nous a dit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, et dans d'autres versions il est dit du baptême qui vous sauve, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Il est dit ici, le baptême, ça n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Alors vous allez me dire, mais cet engagement d'une bonne conscience devant Dieu, c'est le baptême d'eau. C'est là où on s'engage à avoir une bonne conscience devant Dieu. Mais personnellement, je ne pense pas. Je crois que cet engagement, il commence le jour où le Saint-Esprit fait son œuvre, où il nous fait découvrir Jésus-Christ, où il nous fait découvrir nos péchés. Et c'est là que Dieu nous pousse à la repentance. Et finalement, ces deux baptêmes, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau sont très liés. Parce que Dieu nous fait découvrir Jésus-Christ et quelque part, il nous plonge dans sa mort et il nous fait ressortir de là quand on s'engage devant lui dans la foi. Il y a cette mort et il y a cette résurrection. Et je veux bien croire qu'à l'époque des apôtres, surtout, eh bien les deux se passaient quasiment au même moment. Parce que les personnes entendaient la parole des apôtres qui était prêchée et il y avait un engagement qui était pris par rapport à ces apôtres qui prêchaient. Et je crois qu'aujourd'hui, cet engagement, il est beaucoup plus pris par rapport au message des apôtres que nous avons qui est écrit. Dieu nous fait nous identifier avec ce message et oui, il nous fait ressusciter en nouveauté de vie. Et vous allez dire, c'est par le baptême d'eau. Et je crois que le baptême d'eau était simplement à cette époque une manifestation d'obéissance envers Dieu. On peut regarder dans Romains chapitre 10, au verset 17. Attendez-vous, je vais... Voilà, pardon, au verset 10. Romains chapitre 10, au verset 10. Il nous dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. C'est intéressant ici, il nous dit c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et donc il y a certainement un lien très fort entre cette croyance du cœur et cette confession de la bouche. Et c'est très clair que dans la Bible, dans les temps apostoliques, souvent cette confession de la bouche se faisait au moment du baptême, à travers le baptême. Mais elle pouvait se faire aussi auparavant. Et je n'ai aucun doute que des personnes qui n'ont jamais été baptisés en tant qu'adultes, mais qui ont confessé de la bouche Jésus-Christ, eh bien, sont arrivés au salut. L'essence du baptême d'eau, c'est cette confession de la bouche. Mais avant ça, il y a eu le baptême du Saint-Esprit ou le baptême dans la mort de Christ qui a fait que la personne a été transformée, qu'elle a été régénérée et qu'elle a pu faire cette confession. En croyant du cœur, on parvient à la justice et l'eau n'a rien à voir là-dedans. En croyant du cœur, on parvient à la justice, comme le roi David était parvenu à la justice en croyant du cœur, comme Abraham, comme tous les autres prophètes, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Et l'essence du baptême d'eau, c'est cette confession de la bouche que l'on doit tous avoir. Oui, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, mais cet engagement a des racines très, très profondes. Alors, j'aimerais juste regarder un dernier passage dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, au chapitre 1, au verset 22 à 25. Première épître de Pierre au chapitre 1, versets 22 à 25. Il nous est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur. Donc il dit, ici vous avez été régénérés par une semence vivante et incorruptible, par la parole de Dieu. Et l'agent par lequel notre transformation, notre régénération se passe, eh bien, c'est la parole de Dieu et ça n'est pas l'eau du baptême. C'est par la parole de Dieu que Dieu nous convainc de nos péchés. C'est par la parole de Dieu qui nous fait découvrir Jésus-Christ. C'est par la parole de Dieu qui nous amène à confesser Jésus-Christ publiquement. Et l'eau du baptême n'a rien à voir là-dedans. Il n'est pas dit qu'on a été régénéré par l'eau du baptême. Ce n'est pas l'eau du baptême qui nous a régénérés, c'est la parole de Dieu, c'est la semence, une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Et c'est ça qui a purifié notre âme. C'est en obéissant à la vérité par l'Esprit, en ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité par l'Esprit. Et si vous avez été sauvé aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'un jour vous avez obéi à Dieu. Un jour vous êtes venu à Dieu, vous avez entendu sa parole, et ce qui vous purifie, ce qui vous a purifié, c'est d'obéir à sa parole. Obéir à sa parole par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui sauve. Et le baptême a son importance. Oui, le baptême a son importance, mais il est surtout une occasion de confesser ce que Jésus-Christ a fait à l'intérieur de nous-mêmes. Le baptême d'eau, c'est une extériorisation de ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, ne cherchons pas à corriger des choses qui n'ont pas besoin d'être corrigées. Dieu nous sauve par la foi, par sa parole, par la foi en sa parole. Et c'est ce que l'Église aujourd'hui proclame. C'est ce qu'elle a quand même toujours proclamé, malgré que parfois les choses aient été inversées. Mais nous devons prendre garde de ne pas compliquer les choses là où déjà elles sont peut-être un peu compliquées, de ne pas, en essayant de solutionner des choses qui n'ont pas besoin d'être solutionnées, d'aggraver des situations, d'engendrer des problèmes plus grands. L'Église de Christ, aujourd'hui, elle existe. Et elle existe, et c'est bien malheureux, à travers de nombreuses dénominations. Mais personnellement, je ne pense pas que c'est une solution que nous pouvons améliorer par nous-mêmes. Et c'est Dieu lui-même qui va améliorer et résoudre cette situation. La Bible a promis, elle a dit que le jugement, et parfois on entend peut-être le jugement pour les gens de l'extérieur, mais la Bible a promis que le jugement allait commencer par la maison de Dieu. Il va commencer par la maison de Dieu. Et si l'Église a encore des difficultés, si elle est encore divisée aujourd'hui, c'est vrai, mais elle est aussi une Église qui a progressé, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Si on compare l'Église aujourd'hui à ce qu'elle était au Moyen-Âge ou ce qu'elle était du temps de Luther ou de Calvin ou encore plus avec l'Église de Rome à son époque, eh bien l'Église de Christ a beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Et elle est quelque part plus unie aujourd'hui qu'elle l'était à cette époque. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prennent les armes les uns contre les autres. Et nous devons faire attention de ne pas nous laisser prendre au discours des médias qui essayent de nous donner une vision réductrice de nos frères et sœurs. Oui, il y a des problèmes d'interprétation de la Bible. Il y en a un ici, par exemple. Mais je crois qu'un des plus grands dangers auxquels fait face l'Église de Christ aujourd'hui, eh bien, c'est de juger nos frères et nos sœurs d'une manière qui soit trop dure. D'une manière qui soit trop dure. Et ça, on peut le faire malheureusement si on écoute, si on est trop attentif au discours des médias qui souvent caricaturent, qui donnent une vision réductrice de l'Église et des autres chrétiens. Et je parle même des catholiques ou de personnes qui ont de gros problèmes doctrinaux. Et j'ai vu récemment un film, bon, je ne sais pas si je dois en parler ou pas, c'est un peu tard, qui parlait d'un couple d'adventistes en Australie. Et sont des personnes qui ont des problèmes d'interprétation de la Bible, il n'y a aucun doute. Par exemple, ils se réunissent le samedi plutôt que le dimanche. Et ils croient que le jour du repos, c'est le samedi, ce n'est pas le dimanche. Et ces personnes peuvent être même très sévères dans leur jugement par rapport aux autres chrétiens. Mais dans ce film qui relate une histoire vraie, eh bien on voit ces personnes qui ont perdu un enfant. Qui ont perdu un enfant dans des circonstances assez tragiques en Australie. À travers tout ce film, eh bien, on voit finalement, si on enlève l'étiquette dénominationnelle, eh bien, on voit des personnes qui sont très, très, très proches de nous, qui, quelque part, réagissent comme vous, comme moi, on réagirait dans ces situations. Et dans ce qu'on appelle aujourd'hui des sectes, ou dans ce qu'on a parfois raison d'appeler des sectes théologiquement, eh bien, il y a souvent des personnes qui cherchent sincèrement et ardemment Jésus-Christ. Et nous devons bien faire attention de ne pas adopter les discours du monde par rapport à toutes ces questions de sectes et de dénomination. Nous devons avoir notre propre discours, notre propre réflexion, et ce qui pour nous est parfois un défaut théologique ne mérite pas de mettre à mort socialement des gens qui ne méritent pas d'être mis à mort socialement. Dieu va faire son œuvre. Dieu va faire le ménage quelque part je crois, la pression va un jour devenir trop dure. Et celui qui n'est pas vraiment un Christ ne pourra pas tenir le coup. Mais c'est Dieu qui va faire cette œuvre. Ce n'est pas nous qui allons la faire au risque de déchirer le corps de Christ encore plus qu'il ne l'est. Donc on doit vraiment avoir de la patience, de l'amour, du discernement et de ne pas faire nôtre les discours du monde, de vraiment penser différemment. Amen.